Le stand-up, c'est un sacré concept quand même. On s'enferme dans la cave d'un bar avec des inconnus pour écouter un ou une artiste qui raconte des blagues seule derrière son micro.
Bonsoir Lucie, est-ce que ça va ?
Ouais,
j'adore ça. Mais ce qui m'intrigue, c'est ce paradoxe du monde de l'humour. D'un côté, beaucoup de stand-uppers et stand-uppeuses utilisent l'humour pour dénoncer le racisme, le sexisme, l'homophobie. Et de l'autre, j'ai entendu des tonnes d'interviews d'humoristes qui disent que c'est encore les années 50. Il y a plein de plateaux qui sont constitués exclusivement d'hommes, blancs, hétéros et cisgenres. Cisgenre, c'est une personne qui se définit avec un genre qui correspond à celui qui lui a été assigné à la naissance, par opposition à transgenre. Et puis, il y a un autre côté pervers. On a tellement l'habitude d'entendre des blagues discriminantes que quelques humoristes, en jouant de l'autodérision, reproduisent ces discriminations. Alors l'humour, levier de lutte ou amplificateur de discrimination, on va essayer de répondre à cette question.
Vous écoutez Opaque, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Scène fermée, un épisode signé Élise Ulata.
Dans cet épisode, j'ai choisi de me concentrer sur l'humour queer, et plus précisément les questions d'homosexualité et d'homophobie.
Astérix et Obélix, par exemple. Oh, voici Astérix et Obélix, deux jeunes célibataires moustachus qui habitent sous le même toit avec un petit chien, t'appelles ça comme tu veux, mais...
Vous aurez peut-être reconnu Fabrice Eboué, c'était au Festival de Montreux il y a 15 ans. Ça n'aura échappé à personne, sur scène, comme au repas de Noël. L'homophobie, ça peut être un ressort comique.
Les Schtroumpfs, soit c'est un gros village de tapettes, soit la Schtroumpfette, elle doit morfler comme pas possible, hein, je vais te dire.
C'est tellement un ressort comique incrusté en nous qu'il y a 12 ans, on pouvait entendre ça dans un sketch de Shirley Soignon. Shirley Soignon, c'est une des premières, après Muriel Robin, à avoir parlé de son homosexualité.
Je n'ai jamais vu mon père pleurer. Enfin si, juste une fois. Quand je lui dis que j'étais lesbienne, il a pleuré. Ah, il a tellement pleuré, c'était gênant, je lui ai dit « Arrête, papa, on dirait un PD !»
Cette séquence, c'est un parfait exemple de l'autodérision qui glisse vers l'autodénigrement. Un mécanisme assez naturel quand on vit dans une société homophobe. Et puis un jour, l'humoriste Anna Gatsby a dit ça.
Do you understand what self-deprecation means when it comes from somebody who already exists in the margins?
Vous savez ce que l'autodérision signifie pour quelqu'un qui est déjà à la marge? Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'humiliation.
It's humiliation.
Je me rabaisse simplement dans le but de parler ou d'avoir la permission de parler.
C'est un extrait de son spectacle Nanette, diffusé sur Netflix en 2018. Il a connu un succès incroyable à l'international. Avec ce spectacle, Anna Gatsby a juste révolutionné le monde du stand-up. Petite parenthèse, à l'époque de Nanette, Anna Gatsby n'avait pas fait son coming out non-binaire. Donc elle parlait beaucoup d'homophobie en tant que lesbienne. Mais ici, je vais utiliser le pronom non-binaire le plus courant en français, elle. Si vous regardez le spectacle Nanette de Anna Gatsby, vous avez le droit à une première partie assez classique de l'humour queer. Des blagues engagées contre l'homophobie qu'elle a subie sur son île perdue au large de l'Australie, son coming out lesbien et l'incompréhension de sa mère. Et puis soudain, Anna Gatsby annonce qu'elle arrête le stand-up.
I do think I have to quit comedy though.
Et c'est à ce moment-là qu'on quitte vraiment le registre de l'humour. Le reste du spectacle devient un cri de colère contre la misogynie, les violences faites aux femmes et contre l'homophobie. Anna Gatsby décortique aussi le rire. On comprend que dans sa construction, l'humour est issu du travestissement de la réalité. Cet humour, il invisibilise les traumatismes. Je m'explique. Le génie d'Anna Gatsby, c'est d'interroger le concept de blague pendant un spectacle d'humour en faisant rire le public. Yael explique qu'une blague, c'est une amorce, une chute et rien d'autre. Donc ça ne peut pas être la réalité, c'est juste une simplification. Et pendant le show, le public comprend petit à petit qu'un piège se referme sur lui. Au début du spectacle, Anna Gatsby avait parlé d'un couple qu'elle avait croisé à un arrêt de bus. La blague tourne autour du fait que le garçon voulait la frapper parce qu'il pensait que c'était un homme qui draguait sa copine. Bon, Anna Gatsby était vraiment en train de draguer sa copine.
Mais le mec commence à être hyper agressif en disant « Oui, éloigne-toi de ma meuf !» Et puis sa copine lui dit « Mais c'est une fille !» Et là, il dit « Oh, désolé, je me suis trompée !» Sans même considérer le fait qu'une femme pouvait draguer une autre femme. Bref, on a rigolé. Mais à la fin du spectacle, Anna Gatsby raconte que le mec l'a bel et bien tabassée. Donc sa blague du début, c'est une amorce, une chute, un rire, mais pas la fin. En tout cas, pas la vraie fin. Et dans la réalité, Yael n'a ni porté plainte, ni été à l'hôpital, persuadée que c'était tout ce qu'elle méritait. Et ça, j'en ai parlé avec Stéphane Dubaron, c'est son nom d'humoriste. Il fait du stand-up à Strasbourg, et sur scène, il lui arrive aussi d'évoquer l'homophobie.
C'est compliqué parce que dans tous les cas, même si elle s'arrête à l'idée qu'il l'a pris, enfin qu'il a voulu la tabasser, quand bien même il ne l'aurait pas tabassée, il y a quand même déjà énormément de violence là-dedans. Donc c'est déjà d'autant plus triste qu'elle ait eu à traverser un autre niveau de violence. Mais c'est vrai que c'est aussi compliqué, si on a traversé ça, de trouver les mots pour en parler et d'aller jusqu'au bout, parce que ça va forcément rentrer en résonance avec des choses profondes, des failles qui ont été ouvertes par d'autres personnes au final. On a déjà bien assez soi-même si en plus des gens nous en rajoutent, et c'est peut-être pas forcément évident. Et puis la question aussi est de savoir, est-ce qu'on doit tout dire sur scène aussi ? C'est une autre vraie question. Parce que est-ce qu'on doit complètement se dévoiler, se mettre à nu ? Est-ce que tout doit être dit ? Je suis pas sûr non plus. Donc il y a aussi un peu de ça où je la rejoins, où des fois on est peut-être, des fois c'est peut-être pas pour le public, on le dit pas, mais c'est peut-être aussi pour se préserver soi. Parce qu'il y a des moments difficiles, on essaie d'en rire, et puis il y a d'autres où ça va être trop compliqué finalement, et ça reste des situations qui sont peut-être que nous on n'a peut-être pas complètement résolues, et du coup c'est trop tôt pour en parler. Peut-être à un autre stade de sa vie, c'est possible. Mais qu'à l'instant T, ça reste encore une blessure. Moi, des fois, je raconte des histoires, justement à mon mari qui se farcit toutes mes histoires, malheureusement pour lui. Mais du coup, je raconte des choses et je lui dis « Mais ça, je peux pas le dire sur scène. » Et il me dit « Ah, mais si, si. » Et moi, des fois, il y a des moments où, par exemple, j'ai mis très longtemps à parler de mon père. Ça a pris beaucoup de temps pour moi parce que c'était pour moi quelque chose de... Ça évoquait des choses liées à la violence assez douloureuses et tristes. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à être prêt à en parler.
Le spectacle Nanette m'a vraiment marqué. Et j'ai voulu savoir s'il avait pu influencer certaines humoristes. Alors, j'ai posé la question à Marine Le Pen. Son nom de scène est évidemment un jeu de mots. J'avais assisté à une de ses représentations dans un comédie club à Strasbourg.
Anna Gatsby, pour le coup, pour moi, c'est une génie. Pour le coup, elle a une façon de sa rhétorique, sa prose, elle est exceptionnelle. Donc bien sûr que quand moi je l'écoute, personnellement, je me dis oh là là, je suis pas du tout au niveau, parce qu'elle a une vision, elle a une façon d'apporter les choses très fine et en même temps très piquante. Enfin, donc oui, bien sûr. Quand j'ai vu son spectacle, je pense que comme tout le monde qui a apprécié son spectacle, on est resté un petit peu vulgairement sur le cul. Très concrètement, ce qui a changé, c'est que en ayant vu son spectacle, je me suis dit bon bah voilà, osons parler de ces sujets, même si ça plaît pas forcément à tout le monde, pour le coup il faut oser. Effectivement, mes premiers écrits, je le faisais moins, ça restait beaucoup plus comment dire, beaucoup plus léger sur des choses de la vie. Peut-être moins engagé, des broutilles. Mon objectif, c'était quand j'écrivais à l'époque, mes premières fois, c'était surtout de ne pas vexer, de réunir quand même tout le public, alors qu'aujourd'hui, je me dis, je m'en fiche, même si je suis sur une niche, c'est-à-dire que pas tout le monde ne va aimer ce que je fais, c'est pas grave. Au moins, c'est ce que je suis, c'est ce qui me colle à la peau et c'est ce que j'ai envie de faire.
Mais au final, Anna Gatsby a continué le stand-up. Dans une interview au Guardian, elle explique que sa notoriété lui a donné du pouvoir. Et que ce pouvoir l'a sorti de l'oppression, en quelque sorte.
Si on subit quelque chose de la part de la société...
Stéphane Dubaron.
Ça nous appartient aussi de le souligner, parce que ça met en avant ce qu'on traverse et ça peut aider à faire comprendre les mécanismes que les gens utilisent pour marginaliser certaines personnes. Et puis, ça peut aussi aider à reprendre le pouvoir et d'une certaine façon à refuser d'accepter ça. Parce que si on comprend ces mécanismes qui nous placent d'une certaine façon dans la société, ça peut nous permettre de dire je n'ai pas accepté ça, ou je comprends que c'est absurde, ou ça n'a pas de sens, ou c'est humiliant. Et du coup, c'est là où je dis justement que s'il y a une forme de prise de pouvoir. Parce que voilà, c'est je veux pas parler de victimisation parce que c'est pas du tout la même chose, mais d'une certaine façon, quand on prend conscience de ce qu'on traverse, on a déjà un peu repris le dessus.
Mais faut en avoir pris conscience.
Oui, c'est ça, c'est toute la mécanique, c'est toute la problématique. C'est là où le stand-up est intéressant aussi, parce qu'on réfléchit à sa propre vie. C'est pour ça que souvent les humoristes disent, ils vont sur scène et disent oui, c'est une forme de psychanalyse, je dis les choses, mais il y a quelque chose d'intéressant quand même là-dedans, de se dire qu'on prend du recul sur soi-même et on comprend peut-être un peu mieux qui on est et comment on voit le monde, parce qu'on vient sur scène raconter ce qu'on traverse, mais raconter aussi ce qu'on pense, comment on vit le monde, comment on voit le monde. Et du coup, bah, moi-même, j'avoue que j'ai compris des choses sur ma vie en écrivant des textes, où je me suis réapproprié des choses que j'avais traversées, qui n'avaient pas forcément été très sympathiques. Mais finalement, en essayant d'en trouver la part de drôlerie et d'humour, bah, j'avais l'impression de reprendre l'ascendant sur des choses que j'avais traversées.
Et là, comment est-ce que vous décririez la façon dont vous traitez cette thématique ? Par quel mécanisme humoristique et comique, du coup, vous amenez cette thématique ?
Souvent, c'est un peu souligner les quiproquos qui arrivent. En fait, c'est de mettre en avant des regards ou des attentes qui sont posées, par exemple, sur l'homosexualité, et d'en souligner leur absurdité, ou des fois d'inverser le point de vue. De se dire, parce que des fois, c'est aussi intéressant de voir comment moi, je vois le monde, finalement, et se rendre compte qu'en passant de l'autre côté du miroir, les problématiques sont assez similaires, en fait, elles se font beaucoup écho.
Je vais essayer d'utiliser, de démonter certains clichés.
Marine Le Pen.
C'est-à-dire qu'on va avoir, malheureusement, les gens vont avoir, quand on connaît pas, l'être humain a globalement des problèmes d'altérité. C'est-à-dire que dès lors qu'on va pas connaître une situation, on va avoir automatiquement des pensées qui vont être très imagées. La femme butch, tu vois ce que je veux dire, une femme homosexuelle, on va la voir, ou alors le couple homosexuel, par exemple, femme, va y avoir une femme plus féminine, une femme plus masculine, j'essaye de démonter ça.
Aujourd'hui, il y a une véritable génération d'humoristes LGBTQIA+. Fanny Rué, Jérémy Lorca, Alex Ramirez et Tani.
Moi, ça va faire 8 ans que je suis lesbienne, avant j'étais perdue. J'ai essayé les mecs, ça marchait pas. J'ai re-essayé les mecs, ça marchait pas. J'ai re-essayé les mecs en buvant beaucoup d'alcool. J'ai vomi.
Est-ce que vous vous direz que vous faites de l'humour queer ?
C'est drôle, parce que c'est intéressant comme question. Parce que une fois, j'ai joué sur un plateau et une personne du public est venue me voir et elle m'a dit « Ah, c'était bien de te voir parce que t'étais le seul humoriste queer de la soirée. » Et ça m'a un peu surpris parce que moi-même, je m'étais pas défini comme ça en fait. Et après j'y réfléchis en me disant par définition je fais partie de la communauté LGBTQIA+, je raconte des choses de ma vie, j'essaie, comme je l'ai dit, au maximum d'être 100% moi-même sur scène, donc de facto oui, je pourrais dire que je suis un humoriste queer, même si j'ai pas l'impression que ce soit une démarche active, mais c'est juste je suis qui je suis, et voilà. Et donc, par définition, si on en revient à comment la société m'a placé, la société me définirait comme ça. Moi, je me définirais pas forcément avec une étiquette, mais aussi me réapproprier les choses.
Cette assignation à un humour queer, quand on n'est pas hétérosexuel, je l'ai trouvée dans des interviews de beaucoup d'humoristes. Marine Le Pen m'en avait parlé, mais Tani et Charles Soignon le disent aussi.
Je suis une fille, noire, humoriste, arasta, homosexuelle. Ma mère, elle m'a dit, choisis. Tu ne peux pas tout faire, là. Tu t'éparpilles beaucoup trop, ma fille.
Alors, est-ce que les artistes queer sont forcément réduits et réduites à cette thématique ? J'ai envie de répondre que pas nécessairement. Et pour le prouver, j'en reviens à Anna Gatsby. Ce que la critique a retenu de son spectacle de 2020, Douglas, celui qui a suivi Nanette, eh bien ce sont ses propos sur l'autisme.
I have what's called high-functioning autism.
J'ai ce qu'on appelle un autisme à haut niveau de fonctionnement, qui est un nom terrible pour ce que j'ai, parce qu'il donne l'impression que je fonctionne à haut niveau.
I do not.
Ce n'est pas le cas. Pour vous donner une idée de ce que ça fait d'être sur le spectre, c'est comme être la seule personne sobre dans une pièce remplie de gens bourrés.
Dans ce spectacle, Yael raconte sa rencontre avec sa femme, qui est aussi sa productrice. L'histoire s'étend sur toute la durée du spectacle, jusqu'à son mariage. Mais c'est une toile de fond, et rien de plus.
C'était Opaque, le podcast de la section radio du QEJ consacré aux discriminations. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Élise Ulata en février 2024. Coordination Thomas Rozek et Céline Aslo. Réalisation Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.